sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Cinéma. Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Lucille Comeau, Corinne Rondeau et Philippe Azouri pour parler ensemble de Si c'était de l'amour de Patrick Chia, Monos de Alejandro Landes, il y aura un coup de cœur de Corinne Rondeau pour les nouvelles éditions M, et puis un journal de la dispute que Lucille Comeau ouvrira à la page Biopics. Et nous ouvrons cette dispute avec « Si c'était de l'amour » de Patrick Chia. Alors, c'est évidemment pas la plus grosse sortie de la semaine, mais moi, j'avais très envie de faire une belle place à ce film que je trouve rare et précieux à bien des égards. D'abord parce qu'il permettra à une partie de son public de découvrir Gisèle Vienne, qui est une des plus précieuses autrices de spectacle. Il faut dire que « Si c'était de l'amour » s'intéresse à la genèse et aux interprètes de la dernière pièce en date de Gisèle Vienne, « Crowd », inspirée des rêves des années 90, des « Raves ». Pas des rêves, des raves. Ensuite, parce qu'il est rare que les films autour de spectacles permettent de saisir quelque chose du mystère de la création, il me semble que, mais j'y reviendrai, celui-ci y parvient.
This is my time. Maybe a kiss. Everybody else feels love and it's too late. I went too far. Then I feel like just one more time, one more moment of feeling close to him. See the dust rise from his clothes when they move.
Un premier regard sur ce film de Patrick Chia, si c'était de l'amour. Philippe Azouri.
Si c'était de la grâce.
Corinne Rondeau.
Si c'était intrigant.
Et Lucille Comeau.
Je dirais que c'est pas un film de danse.
Si vous jouez pas à Si c'était.
Ah bah non, je joue pas. Non, là vraiment, je joue
c'était
pas.
Si c'était, je joue pas.
Voilà. Mais je joue jamais, moi, de
ouais,
toute façon.
C'est ça, hein.
Donc non, bon, je dirais que justement, c'est pas. Enfin, j'ai entendu votre introduction, mais je dirais que c'est justement pas un film sur la création ni sur la danse et que c'est tant mieux.
Oui, bon, je suis un peu d'accord.
Je suis un peu d'accord aussi avec Lucille Comeau.
Il y a beaucoup de critiques différentes autour de cette table. J'ai pas tout à fait dit que c'était un film sur la danse. Enfin,
non.
J'ai même pas du tout dit.
Non, vous avez dit création.
J'ai il approchait quelque chose du mystère de la création. Bon, nous y reviendrons et j'y reviendrai. Philippe Azouri va développer son propos.
Ah ben, ça tombe bien. Non, ça tombe bien parce que je l'ai vu deux fois, ce film, Si c'était de l'amour, de Patrick Chia. Je l'ai vu deux fois en deux semaines. J'ai vu la première fois à Berlin, à la Berlinale. C'est le premier film que j'ai vu, comme ça, en arrivant. Très tard, un peu crevé, l'avion dans les pattes et tout, les accréditations, tout ça, ce truc un peu ennuyeux. Et je l'ai pris exactement, Arnaud, pour ce que vous êtes en train de décrire, c'est-à-dire un travail sur Crowd, donc la chorégraphie de Gisèle Vienne, qui remet en danse ce qui était déjà de la danse pure ou de l'affect pur, c'est-à-dire les rêves des années 90 jusqu'à aujourd'hui, parce que finalement, c'est un invariant. Et je l'ai pris comme un très très beau film là-dessus, sur ce travail de création. Ce film-là, j'avais... connais très très bien le travail de Patrick Chia depuis de nombreuses années, que ce soit Domaine, sa fiction avec Béatrice Dalle, que ce soit Brother of Night, son dernier film qui était à la lisière entre la fiction et le documentaire, et je le voyais tricoter justement cette frontière entre le documentaire, c'est-à-dire la captation, l'enquête sur le travail, et de l'autre côté, quelque chose qui tenait plus effectivement de fiction à partir de fiction possible ou potentielle à partir justement de des personnages que Gisèle Vienne demande à chaque danseur d'incarner, ces choses que nous ne savons pas nous, et qui sont de tout ce travail a priori pour que chacun des danseurs arrive avec un personnage, arrive avec un passé, arrive avec chargé d'émotions, ou puisse faire remonter de lui-même des émotions. Ce film, je l'ai trouvé très très beau, plutôt très réussi, avec beaucoup de goût, une utilisation de la musique assez extraordinaire. La musique, elle est très très belle, on a entendu Acid Eiffel, c'était Chaz et Laurent Garnier, je crois, début des années 90, qui entame un peu le film, et c'était très beau, ça me semblait dialoguer avec un autre film qui est le Vers Mathilde de Claire Denis.
Le Claire Denis sur Mathilde Monnier.
Sur Mathilde Monnier, exactement.
Son travail avec les autistes.
Voilà. Et qui aussi était un travail comme ça de cinéma qui essayait de creuser, de savoir qu'est-ce que c'est un geste, qu'est-ce que c'est une chorégraphie chez un danseur, ça veut dire quoi un geste, ça porte quoi un geste, ça charrie quoi un geste. Okay. Je l'ai revu hier, c'était de l'amour, et je l'ai pris. Là, cette fois-ci, je l'ai pris comme une déclaration d'amour. Enfin, je suis très 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 à vif hier. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, voilà, les milieux de semaine ont cette vertu, et je l'ai pris pour ce que disait Lucille, enfin justement, ou Corinne, c'est-à-dire. Ça n'est précisément plus de la captation, ça n'est précisément plus un travail. C'est à partir de Crowd de Gisèle Vienne, un film qui me semble incroyable sur les désirs actuels, sur les mots des désirs actuels. Une chorégraphie des désirs actuels, mais tout ça à partir de la danse. Mmh. C'est-à-dire que ce que ma génération, qui est celle des rave parties, à laquelle j'ai un peu donné beaucoup de mon temps, de mon énergie, de ma santé, et encore jusqu'à encore ce week-end-là d'ailleurs. Donc ma génération a créé avec les rave parties un désir de danser pour précisément ne plus dire ou pour pouvoir exprimer autrement le désir. C'est ça qui nous a, enfin, un peu, qui a jailli avec ça à partir des années 90 et qui a flot maintenu semaine après semaine. Et qu'à partir de ça, effectivement, Gisèle Vienne, elle, en tire une chorégraphie, c'est-à-dire qu'elle fait à partir de la danse, elle essaye de retrouver de la danse ou du récit. Et Patrick Chia essaye, lui, de voir l'ouvroir de fiction potentielle qui est possible à l'intérieur de ce film. Et il le fait extrêmement bien.
Corinne Rondeau pour poursuivre sur Si c'était de l'amour.
Oui, je pense que le film est quand même ouvert à peut-être plus d'interprétations même que parce que je suis d'accord avec les deux sens qu'a ressenti en l'occurrence Philippe, parce que même le titre Si c'était l'amour, c'est déjà du passé.
L'amour.
Et c'est au passé, et il faut savoir qu'à la fin du film, on a des documents des époques début 90, de rêve parti, vraiment. Donc il y a quelque chose aussi du flashback qui revient, cette manière d'interpréter au présent le passé, et effectivement cette manière de vouloir éprouver du sentiment à l'intérieur de la danse. Alors, je suis d'accord à la fois. Bon, moi j'ai trouvé que le film avait une manière d'être avec la chorégraphie. C'est un film donc qui va filmer une chorégraphie qui est en slow motion. Les mouvements des danseurs sont très lents, puis il y a des soubresauts. Et le film est fait comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une lente progression avec quelque chose d'un peu d'énigmatique dans la mesure où on leur pulvérise de l'eau ou quelque chose dessus. Puis ensuite on voit danser. Puis ensuite, cut. Donc là où il devrait y avoir un mouvement de danseurs, cut, il y a Gisèle Vienne qui fait écran à ses danseurs et elle leur dit un certain nombre de choses, par exemple respire avec les hanches, respire avec les genoux, caresse-le et étrangle-le, le combat, elle parle d'un combat tout en douceur, donc une espèce de paradoxe, de contrariété à l'intérieur du corps qui doit être au sol et en même temps qui doit se suspendre en l'air. Donc il a cette manière d'organiser son film entre effectivement la chorégraphie, des moments où Gisèle Vienne est avec eux ou à l'extérieur avec un micro, elle leur dit. Et puis on a ces moments, effectivement, ces espèces de petits atomes, de personnages qui parlent seuls en caméra, face caméra ou à deux. Et donc on a une intimité. Alors je trouve que effectivement il est très fort pour suspendre l'action de son film. Enfin, il y a un minimum d'action. Mais par ailleurs, je trouve que le film repose... Moi, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, je ne sais plus ce que je vois. Parce que je ne savais plus si c'était réel ou si c'était écrit. Ce qu'on me raconte de la vie. Alors, on apprend qu'effectivement, il y a une écriture qui a été utilisée. Et parler pour les danseurs avec un auteur et Gisèle Vienne, Denise Cooper.
Ah oui.
Et donc d'un coup, je me dis mais c'est trop écrit. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait spontané. Et donc il y a cette ambiguïté qui se. Je vous ai embrassé, je crois, Philippe. C'est là que ça devient intéressant. C'est pas un document, c'est pas une fiction. Et c'est cette espèce d'ambiguïté et d'intrigue finalement de cette manière dont le film en fait n'arrête pas de se dérober à ce qu'il montre. Et c'est aussi ça, d'une certaine manière, je trouve la manière de mettre des mots dans des pour dire en fait c'est pas notre vie qui nous sert, c'est en fait ce sont les sentiments ou les émotions, alors je les énonce par des mots, mais en fait ce sont les émotions. Faire de la danse, c'est que les mots perdent leur signification pour être un mouvement. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien réussi dans le film. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas une interprétation. C'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est ça qui est intriguant et qui est très réussi, comme on dirait, du trouble du réel et de la fiction.
Alors, si c'était de l'amour vu par Lucile Gaumeau, pendant que Philippe Azoury s'étrangle là.
Moi j'ai vraiment beaucoup de doutes sur la forme du film de danse. Enfin, c'est un sujet qui m'obsède, y compris les scènes de danse dans les films. D'ailleurs, je trouve ça toujours assez peu réussi. Et surtout dans les films de danse, il y a toujours ou un truc un peu littéral, assez pédago, un peu masterclass, on utilise le film pour montrer ce qu'est un spectacle de danse, ou alors il y a quelque chose de très artificiel, type Wim Wenders, Pina, ouais. Avec un protocole ouais. hyper figé et qui nous permet de voir la danse. Là, en fait, le protocole, il est complètement décalé. Et il tient au titre, enfin vraiment à la littéralité de ce titre, si c'était de l'amour, et il est totalement réversible, c'est-à-dire que si c'était de l'amour, c'est très simplement, en effet, on s'inspire de nos expériences individuelles pour jouer l'amour sur scène, mais c'est aussi à l'inverse ce que la danse et l'amour sur scène peut apporter à la vie personnelle. Mmh. Et c'est probablement dans cette réversibilité-là que se situe une forme de fluidité de la forme et cette indécidabilité du genre. On sait en effet jamais vraiment, et c'est la force du film, où on se situe. Et il commence pourtant comme quelque chose d'assez conventionnel, parce qu'on a quelque chose d'assez clair au départ entre les scènes de plateau, donc en effet de danse qui sont filmées de manière assez classique, des scènes de coulisses, donc vous en avez parlé, il y a des discussions entre les danseurs, il y a aussi une discussion qui revient à plusieurs reprises entre un des danseurs et la maquilleuse. Et tout ça, de manière très fluide, s'indétermine totalement. Et on ne sait absolument plus de quoi on parle. Mais très simplement, c'est-à-dire qu'on ne sait plus si le danseur parle de lui, s'il parle du personnage qu'il est censé incarner sur scène. C'est pas du tout clair. Il parle d'histoires d'amour qui pourraient être des histoires d'amour jouées et des histoires d'amour qui existent en effet entre les danseurs. Tout ça devient assez fluide. Et ça crée, en effet, là je rejoins Philippe Azoury, c'est là qu'il y a une vraie authenticité. En fait, paradoxalement, il y a ce truc qui est quand même assez merveilleux, que l'artifice du spectacle de danse rencontre l'artifice de la représentation cinématographique et ça annule l'artifice. C'est-à-dire qu'on est face à quelque chose de très authentique sur l'expression amoureuse, en effet assez contemporaine. C'est peut-être là que j'ai des tout petites réticences, parce que je trouve qu'il y a quelque chose dans la grammaire amoureuse qui est développée, qui est certes très trouée, très esthétisante, qui brasse beaucoup d'air du temps sur la fluidité amoureuse, la fluidité sexuelle. Mais bon, après, bon, ça c'est juste le côté un peu potentiellement daté du film et son obsolescence possible qui me fait toujours un peu regretter. Bon, c'est personnel.
Ou sa modernité.
Oui, voilà. Moi, oui, mais la modernité, elle est dangereuse, parce que ça peut se retourner contre le film. Mais bon, c'est vraiment, à mon avis, transformer le cliché du « on apporte quelque chose de soi sur scène ». Ça, c'est intéressant, parce que c'est un gros cliché de la création artistique. Et là, en effet, ça rejoint ce que vous disiez, Arnaud, d'un film intelligent sur la création. C'est pas ça. On n'apporte pas ce qu'on est sur scène. C'est presque à l'inverse. Ce qu'on fait sur scène nous apporte quelque chose dans notre expérience personnelle. Et à l'endroit amoureux, c'est évidemment particulièrement crucial et particulièrement sensible.
Alors, il faut dire que Denise Cooper, écrivain, n'est jamais pour rien dans les créations de Gisèle Vienne. Et là, c'est peut-être un des spectacles où on peut le moins voir sa place, mais elle est extrêmement forte et de fait, puisque vous l'avez raconté. À la fois, je maintiens tout à fait ce que j'ai dit, parce que c'est quand même un film qui s'approche très près du mystère de la création et d'une façon tout à fait originale, me semble-t-il, parce que moi, ça me passionne de voir les indications d'Gisèle Vienne à ses interprètes, le peu de choses qu'elle dit, la façon, enfin même dont elle les touche aussi. Enfin, il y a quelque chose du physique qui est tout à fait important chez elle, évidemment. Vous disiez filmer de façon conventionnelle, moi je trouve pas du tout. Je trouve que la caméra de Patrick Chéa, elle est complètement en accord avec la pièce chorégraphique elle-même, c'est-à-dire qu'elle est vraiment très près, qu'elle caresse les corps, qu'il y a une intimité entre la caméra et l'interprète.
Je parlais juste des premiers plans, c'est assez classique. Non, parce que vous dites... les premiers plans, la manière d'utiliser à la fois le plan large, le plan rapproché sur les corps. Oh, après, ça change. Enfin,
non, justement, enfin, ouais. Les premiers plans, c'est Corinne qui en parlait très bien, ils sont très intrigants. C'est la première séquence, quand je l'ai revue hier, où on leur passe de l'eau, on ne sait pas du tout si on est dans un protocole même clinique, enfin compliqué. Très, très troublant comme première scène, comme introduction dans un film. Il y a longtemps que je n'avais pas vu quelque chose d'assez...
Le début est hypnotique.
Hypnotique, et quand vous parlez des séquences où les interprètes parlent comme ça, off, il me semble qu'il se passe au moins 30 minutes avant que ça n'arrive. Enfin, c'est quand même très long avant qu'on arrive à ce type de séquence-là. Et puis sur la côté de l'obsolescence possible, de toute œuvre, ou de l'éternité possible, on pourrait le dire à l'inversement de toute œuvre, moi je pense que c'est... comme souvent chez Cézanne Vienne, mais peut-être bien plus encore que toutes ses œuvres, quelque chose d'extrêmement autobiographique. Et du coup, je trouve que ce film le fait ressentir, et c'est pas un hasard si Patrick Chéa, qui connaît Cézanne Vienne depuis le lycée, oui, je crois qu'ils étaient ensemble au lycée, s'est dit qu'il fallait qu'il fasse un film sur cette création, parce que c'est en la découvrant qu'il a eu l'envie de ce film, parce qu'il a sans doute bien vu, lui, ce qu'il y avait d'elle dans ce film. Donc il y a aussi cette dimension-là qui me semble extrêmement importante. Enfin, bon, il y a beaucoup de... Vous l'avez dit... Beaucoup de strates, beaucoup de feuilles, de mille feuilles, Philippe Azoré.
Oui. Donc, je me disais que si jamais, enfin, s'il m'arrivait de croiser ou Gisèle Vienne ou Patrick Chéa dans les semaines qui viennent, j'aurais eu envie presque de leur parler de quelque chose qui, moi, me fait réfléchir, et je pense que Corinne s'en approchait aussi un peu à la fin de son argumentaire, quelque chose qu'on pourrait presque appeler l'échec de la danse, mais c'est un échec joyeux, genre on peut danser dessus. Qui est que la danse est censée presque arriver à dire avec les corps ce que les mots n'arrivent plus à formuler, à préciser ou à cerner. Et que là, le film repasse, c'est compliqué pour moi à assumer, par la parole. Comme si la danse ne suffisait plus. Et le spectacle, moi je l'ai jamais vu en plus, le spectacle de Gisèle Vienne, c'est pas que je refuse, parce que systématiquement, quand je me réveille trop tard, elle l'a encore refait en décembre, il y a pas longtemps, juste en décembre, tout début des grèves, et je sais que je l'ai su trop tard, il n'y avait plus de billets, j'ai jamais réussi à la voir, alors que c'est un peu pour moi. Mais non, mais c'est vrai, je suis quelqu'un qui aime danser en rêve, et je suis cliente aussi de la lecture que peut en donner une chorégraphe contemporaine. Avec un peu cette sorte de suspicion aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que la chorégraphie a à proposer de plus, finalement, que ce qui s'invente sans personnage, ou sinon avec notre vécu à nous qui sommes celui des danseurs, chaque jeudi, vendredi soir, samedi soir, dimanche matin. J'avais une curiosité pour le spectacle de Gisèle Vienne là-dessus. Je l'ai jamais vu, donc je peux pas en parler. Et je vois dans le film de Patrick Chéa un recours malgré tout à la fiction, à du biographique, aux mots, au langage, qui m'intéresse, mais comme potentiel échec justement de la danse contemporaine, c'est-à-dire de la création artistique danse. Ouais, voilà. Et c'est de ça j'aimerais bien parler avec eux ou avec vous si vous savez mieux ça que nous.
Pardon. Corinne.
D'abord, vous arrêtez de tousser, puis...
Oui, déjà, ça inquiète beaucoup Corinne Rondeau.
Non, mais l'intérêt de la question de Philippe est aussi celle du cinéma par rapport au slow motion, qui est une maladie du cinéma, quand même. C'est pas de l'action, c'est une volonté d'hypnotiser pour mettre pour enfler l'écran de quoi, on se demande. Et je trouve assez beau cette manière dont les corps se saisissent d'une image cinématographique. Ça, je trouve ça assez merveilleux dans la dimension chorégraphique. Comme si le cinéma ne pouvait plus être à l'écran et les corps, pour rejoindre Philippe, ne pouvaient plus être à la scène, comme d'habitude. Donc cette espèce d'entrecroisé rejoue en fait toute cette intrigue. Pour moi, ce film est intriguant parce que c'est de l'intrigue. Et il n'y a pas de... Et je remets ce mot qui m'est apparu le plus juste. C'est un film qui se dérobe à ce qu'il vous... à la vérité supposée qu'il pourrait être s'il était un documentaire, y compris l'épreuve de la vérité en termes de fiction. Et je trouve qu'il ne joue jamais le jeu. de la prétention à une vérité quelconque liée à un cadre artistique ou à une performance ou à la création elle-même. Et je trouve que c'est vraiment là, à l'endroit exact, où on prend une caméra et où il y a des corps, qui est aussi le cinéma, et en même temps il y a un chorégraphe avec des corps, ce qui est aussi la danse, et d'un coup on a quand même à la fin l'idée de qu'est-ce que c'est encore d'avoir un corps en 2020. Et c'est-à-dire des sentiments, des trucs qui chauffent à l'intérieur et qui se mettent à brûler à l'extérieur. Mais
aussi, qu'est-ce que c'est qu'un film possible en 2020? Il y a un potentiel de film incroyable dans ce film-là.
Oui, et surtout, c'est vraiment dangereux parce que, en effet, vous le disiez un peu tous les deux, dans le cinéma d'aujourd'hui, le slow motion, la musique telle qu'on l'entend là, donc la musique électro utilisée par Nap, le clip, etc., c'est une maladie. Enfin, il y a un truc un peu pathologique
dans tout film français à l'heure actuelle. Il y a une scène de boîte de nuit avec de la techno et des danseurs au ralenti.
Même quand il n'y a pas de boîte de nuit, c'est pas forcément thématisé. Il peut se trouver que n'importe quand dans un film, en ce moment, il y a ça. Et que ça pourrait renvoyer à ce type de vraiment qui est un fonctionnement pathologique du cinéma français. Or là, on ne se pose jamais cette question. Et déjà, c'est...
On est complètement ailleurs. Si c'était de l'amour, c'est le titre de ce film de Patricia qu'on vous invite évidemment à aller voir aussitôt que possible. Nous allons parler dans quelques instants de Monos. Corinne Rondeau nous parlera des éditions M et Lucille Comeau nous interrogera sur les biopics.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec Monos de Alejandro Landes, direction cette fois les montagnes colombiennes, où des jeunes gens sont chargés de garder la doctora, une otage américaine.
Lois, llegó el mensajero.
Son los monos.
Guarda a la doctora. Que la trata bien.
¿Está claro?
Necesitamos una prueba de vida. Nuestro comandante tiene comunicación con la familia.
Nos tienen ubicados. Marchamos hacia nuevas coordenadas. El traslado es largo, pero tenemos que sacar a la doctora.
Sur les écrans depuis mercredi. Premier tour de table, Corinne Rondeau.
C'est de la transe, hein, mais je ne suis pas convaincue d'aimer ça.
Lucille Comeau.
Ah oui, moi non plus, pas du tout. Trop de déjà-vu.
Philippe Azoré.
Une dérangeante surprise. Il y a de la surprise, mais il y a quelque chose aussi pareil, comme Corinne, qui bloque un tout petit peu. Mais il y a quand même une bonne surprise.
Bon, Corinne, quand même, vous ouvrez la discussion sur ce film.
Écoutez, voilà un film qui commence avec une... Enfin, c'est un film qui commence avec beaucoup d'intensité. Parce que je trouve que les plans sont absolument remarquables. On se retrouve sur une colline assez dénudée, avec une architecture étrange. Un ensemble de jeunes avec des noms... Ils s'appellent d'abord parce que c'est une scène, ils jouent au football, mais ils sont bandés, les yeux sont bandés. Alors il y en a un qui s'appelle Rambo, Smurf, Dog, Lady, etc. Donc ce sont des noms d'emprunt, évidemment. On découvre que c'est une sorte de petite guérilla. Ils sont là pour pour garder, faire leur job, quoi, finalement. Et puis, l'intrigue dérape assez vite dans la mesure où la fête, puisqu'en fait, le film passe par deux états, au moins deux états. Le premier, c'est une sorte d'ordre dans lequel il y a des jeunes. Puis ensuite, ils sont livrés à eux-mêmes et ils ont une responsabilité de garder une vache et une doctoresse américaine. Et puis, la fête passe à la guerre parce qu'il y a un accident. La Kalachnikov devient, en fait, c'est pas un jouet, ça va tuer la vache. Et puis, le leader du groupe va se suicider à l'égard de ça. Donc, il y a un dérèglement qui rentre en ligne de compte. Et puis, de libre, ils étaient enrôlés, et puis d'indépendants ou dévoués, ils vont passer du côté de ce lieu qui est magistralement filmé, donc en hauteur, grande plaine, comme ça, architecture, vers la jungle, où là, ils deviennent eux-mêmes une sorte de groupe de guérilla. Alors moi, j'ai trouvé le film assez beau, et puis ce passage qui était assez remarquable. Cependant, j'ai trouvé qu'il y avait des ambitions et des effets trop cinématographiques pour que l'histoire nous mène finalement à quelque chose de très clair. Alors j'en ai trouvé une ligne, si vous voulez, mais je suis pas convaincue par la. Je trouve que le réalisateur a péché par excès.
Excès.
Oui, excès de beauté, de plan, excès de mettre le corps dans une sorte de décorum. À la fois, ils sont maquillés un peu à la Apocalypse Now, dans la deuxième partie quand ils sont dans la jungle. La première partie, il y a tous ces rapports de jeunesse, on s'embrasse, on se fait des langues en permanence. J'ai hors de ça, j'en pouvais plus. Enfin, ça fait un bruit épouvantable.
Mais tout ce qui traîne aujourd'hui, en plus.
Mais bon. Et donc, c'est.
Ouais, d'accord.
Il y a quelque chose de surjoué et bon, il y a des réussites, hein, mais j'ai un peu des doutes.
Des doutes très partagés visiblement par Lucille Como.
Oui, c'est beau, ça c'est sûr, c'est beau. Et les premiers plans laissent augurer un truc assez particulier. Moi, je trouve que c'est vraiment très compliqué d'aujourd'hui faire un film dans ce lieu-là, donc la forêt amazonienne, la moindre scène de fleuve, de pirogue, si en plus on rajoute une petite couche un peu mythologique, des scènes de rituel, un peu le truc archaïsant, moi je pense à Aguirre tout de suite et à Werner Herzog, et en fait la référence, je pense pour quiconque, même n'a pas vu le film récemment, mais a ce type d'image dans la tête, elle est écrasante. À partir de là où on soupçonne une forme d'ambition un peu démesurée, donc faire aussi beau ou faire mieux ou réactualiser le truc, ou alors une sorte de rapport fétichiste à la référence, dans les deux cas, ça met vraiment très à distance. Or, ce type de film, il fonctionne sur l'effet de sidération, d'effroi, d'étrangeté. Pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. Toutes les scènes de rituel sont très, très artificielles. D'autant que, vous l'avez expliqué, Corinne, il y a quand même quelque chose de très indéterminé, mais un peu à forcer dans l'indétermination de cette révolte. On ne sait pas exactement par qui ils sont commandés. C'est-à-dire que la hiérarchie, c'est un personnage qui s'appelle le messager. Elle s'appelle la docteur. Donc tout est un peu allégorique, de la même manière que leurs noms fonctionnent comme des références ou des pseudonymes. Tout ça crée une indétermination très, encore une fois, dans l'air du temps, la révolte de ces jeunes. On ne sait pas exactement pourquoi ils se battent, mais ils se battent. Ce rapport à la violence-là, mais vraiment devenu tellement familier que c'est devenu un cliché, à mon avis, de cinéma, qui d'ailleurs traverse les frontières. C'est pas le cinéma sud-américain, n'est pas l'apanage de ce type de cinéma-là. Moi, j'y vois un pur objet cinématographique, sans dynamique, vraiment très chargé, mais qui n'avance pas vraiment. Et cette double partie dont vous avez parlé, en effet, il y a une partie statique dans les ordres des rituels bien instaurés, et puis une partie qui m'intéresse plus, qui est un peu de Robinsonade à travers la jungle, n'a pas vraiment de substance, de récit. J'ai vu ni récit, j'ai vu une succession de tableaux. On l'entendait dans la bande-annonce, il y a quand même ces bruits de pales, d'hélicoptères. Apocalypse Now clignote à tous les tournants de sentier. C'est difficile de voir ça aujourd'hui, moi, je trouve. C'est difficile de s'y confronter, en tout cas.
Vous voulez préciser quelque chose, Corinne, avant que Philippe Azor?
Non, c'est parce que quand vous dites le docteur, le messager, il s'agit d'une organisation, donc on entend bien qu'elle intéresse. Le film repose, en fait, sur la dimension dimension de la société, donc d'une organisation. Peu importe, chacun a son rôle. Au-delà du rite, il y a quelque chose simplement de la société qui est rejoué là. Évidemment,
c'est pas assez intelligent pour qu'il y ait une vraie valeur philosophico-allégorique.
Non, mais là, c'est juste sa forme de signe. C'est un ensemble de signes.
Qu'est-ce que ça dit de la violence? Qu'est-ce que ça dit de la révolte, de la jeunesse?
Alors, Philippe Azoury.
Bon, non, justement, sur la violence, ça, c'est une tentative de faire éprouver avec un... Je pense que le projet de Alejandro Landes, c'est ça? Je dis pas de bêtises.
Landes.
Il se situe quand même aussi sur le réel de la Colombie, aujourd'hui qui dure depuis le début des années 60, c'est-à-dire quand même une des plus longues guerres intestines qui soit, entre d'un côté des groupes paramilitaires et de l'autre côté les FARC, mais sans, comment on peut le jouer sans les nommer, et que surtout, enfin, sa position à lui, elle est compliquée, il la tient finalement, elle est malaisante aussi pour ça, c'est de ne travailler ni pour les uns ni pour les autres, parce qu'une certaine manière, c'est impossible de le faire. Donc effectivement, il le fait à travers...
Les uns et les autres, vous arrivez à identifier des acteurs. Moi, ça me pose d'autant plus de problèmes si ça s'articule à une réalité. Hein,
bah oui, quand même.
Il
est quand même à clé. Simplement, ça m'intéresse plus que de l'identifier, c'est de voir de quel côté précisément la mise en scène pourrait essayer à un moment donné de pencher d'un côté ou d'un autre. Et c'est un film qui ne se fait que des ennemis, ce qui est pas mal. Moi, ça m'intéresse un film qui se fait que des ennemis dans ce côté-là. Même moi, y compris moi, à un moment donné, parce que je voudrais que... Parce que j'en ai marre d'être au milieu ou de fâcher à la fois tout le monde. Mais quand même, je trouve qu'il arrive déjà avec ça à tenir une ligne sur une heure et demie qui m'étonne assez. Après, à l'intérieur même de ce qui est aujourd'hui l'actualité du cinéma sud-américain, il est aussi très très particulier parce que d'un côté, il pourrait être, je pense au réalisme magique de Ciro Guerra qui avait fait l'étreinte du serpent. Il a un peu de ça. Même un peu beaucoup, mais avec sans doute des fois plus de subtilité. Surtout, je trouve beaucoup plus subtil qu'un Argentin, qui est Alejandro Fadel, qui avait fait... j'aimais beaucoup Los Salvales, j'aime moins Monstre... comment ça s'appelait ? Meurs, Monstre, Meurs, je crois que c'est ça. Je trouvais trop chargé. Et qui, lui, travaille également comme Alejandro Landes, c'est-à-dire sur ce côté, on va travailler la mémoire, la mémoire politique d'un pays, et on va le faire à travers des codes qui sont des codes d'un film de genre. Moi, j'ai très très peur de ça, en général. Et comment on arrive... Et Corinne le disait, à la fois c'est exténuant de beauté dès le début, et c'est aussi quand même la très très bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'en général, le film de genre oublie de filmer. Il oublie de filmer quelque chose qui lui, enfin, en plus, c'est assez troublant, parce que la lumière, elle se souvient des derniers Tarkovsky. Il y a presque dans l'organisation, dans ces groupuscules, la façon dont ils sont organisés, effectivement, la distribution presque ridicule, mais et en même temps parodique, et il y a toujours dans le cinéma sud-américain ou dans leur littérature ce goût de la parodie, jusque quasiment d'un ridicule assumé ou d'un burlesque assumé, qui est de désigner par des gens et qui rappelle certains globes. Robert Rocha du tout début, mais avec cette chose effectivement très contemporaine qui est d'aller très profond, de tirer là où ça fait mal du côté de la violence psychologique. Moi, c'est ma limite sur le film, c'est que je suis pas client de la violence psychologique. J'aime pas beaucoup ça. Donc, je suis le film sur 40 minutes. 40 minutes où je suis très, très, très... parce que je trouve qu'il alterne ça, la violence, et d'un côté de la respiration. J'adore vraiment tout le côté. Tant qu'il y a la vache, ça me va. On va le dire comme ça. Après, je décroche un peu parce que d'un coup, le film se durcit et c'est son grand pari. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont très très clients de ça et qui trouveront peut-être même qu'il n'est pas allé assez loin dans la dureté, dans l'horreur. Moi, c'est le moment où le film me lâche un peu, mais je trouve quand même qu'il tient quelque chose, quoi. Alejandro Landes.
Vous n'avez pas l'air d'accord du tout, les
Mais en fait, c'est contradictoire ce que vous dites, Philippe, parce que justement, si violence psychologique il y a et si ça finit par se réduire à ça, ce qui est en effet, à mon avis, le cas de la dernière partie. Comment comprendre, alors moi je connais pas par cœur l'histoire de la Colombie, mais bon, j'estime être un peu sensible à ce type d'enjeu, comment comprendre la représentation de la violence? Qu'est-ce qu'il veut nous dire de la violence? Est-ce que c'est de la violence gratuite? Et dans ce cas-là, c'est toujours très compliqué au cinéma de montrer la gratuité de la violence. Il y a toujours le soupçon de la complaisance, de la fascination, ce qui est quand même le cas dans beaucoup de films aujourd'hui. Surtout, encore une fois, bande de jeunes, terrorisme, d'État ou pas, dissidence ou non, tout ça est extrêmement compliqué.
Non, je pense
que c'est très très problématique. Alors là, là, ça m'intéresse à la limite, mais je trouve ça problématique.
Sans vous reparler à la place de, dans les rangs hollandaises que je ne connais pas du tout, mais j'ai l'impression qu'il nous montre quelque chose qui est terrible pour une partie des gens qui ont suivi notamment du côté des farces, c'est-à-dire l'abandon au fur et à mesure de quelque chose qui pouvait s'appeler ou l'articulation marxiste ou la croyance idéologique, c'est-à-dire qu'on finit par œuvrer sans idéologie sur des pulsions et que c'est ce qui les rend finalement non identifiables, on n'a plus besoin de les
psychologique et ça c'est un
psychologique.
Bah oui, mais c'est
on est maintenu sur 60 ans désormais d'état guerrier et que c'est la raison même de la guerre ou la raison idéologique de la guerre qui s'est perdue et qui ne laisse plus place qu'à des réflexes. La scène où ils se mettent à tirer en l'air jusqu'à tuer la vache, elle est magnifique de ce côté-là.
Corinne, on doit les répondre.
Mais la scène y est parce qu'il n'y est pas. Et c'est ça qui marche avec la scène de la vache. Mais moi, je trouve qu'il y a des moments qui sont des gros poinçons dans le film. Je trouve qu'il y a la vache, c'est sûr. Il y a une jeune fille qui joue un rôle où on sent que la violence est passée de l'autre côté. Autant ils prennent les champignons hallucinogènes et on a des sourires, ça part en vrille. Mais il y a quelque chose encore de joyeux. Et puis, il y a un moment où la doctoresse va être peut-être... elle va pouvoir se libérer. Puis, il y a une explosion et elle est seule avec la doctoresse. Et la doctoresse, elle embrasse dans le cou la doctoresse. Et il y a une ambiguïté érotique dans cette fermeture. Et la doctoresse se laisse aller à quelque chose. Et donc, d'un coup, elle comprend qu'en fait, c'est du jeu. Et là, d'un coup, il y a le regard de cette jeune actrice qui est sidérant de brutalité. Genre, je t'ai bien eu. Vous voyez ?
Et si c'était de l'amour.
Ouais. Et si c'était de l'amour. Et le film est comme ça, et il est beaucoup dans le regard, parce que c'est un film qui regarde le spectateur, parce que c'est quand même un film sur la jeunesse, sur la société qui a des lois, et la loi principale quand on est en dehors des clous, c'est l'incarcération, c'est la loi, c'est l'attachement, c'est la prison. C'est du début à la fin, c'est comme ça. Pourquoi elle est tout le temps... C'est un jeu, on la regarde. Et puis finalement, il rit. Et puis à un moment donné, il l'attache. Donc il y a une progression comme ça. Et juste la dernière chose, entre le plan où les enfants sont aveugles avec des noms de cinéma ou
de Pitoufo, c'est quoi ça?
Oui, mais de jeunesse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la jeunesse de tout le monde. Et c'est la société, je pense, qui interroge la question de la loi. Est-ce qu'on est capable de s'affranchir du groupe, c'est ça la question du film, et qui est adressée à la jeunesse, entre la liberté et la guerre, qu'est-ce qu'il vous reste? Et donc le dernier plan est assez merveilleux quand même.
Oui, oui.
On n'en dira pas plus. Mais Lucille Comeau, dernière réaction.
Encore une fois, si l'idée c'est de faire une forme de réflexion, d'un contrat social.
Non, c'est pas un contrat social,
c'est tout par réfléchir à ce que c'est la loi dans une société, l'option psychologique est gênante. Je veux dire, la violence, on peut pas la traiter en même temps comme quelque chose de collectif et d'un fonctionnement entre des collectifs et juste une question psychologique.
Vous avez remarqué
que quand
même tout le monde veut fuir. Tout le monde veut fuir.
Ouais, bon, moi,
sauf ceux qui sont.
Je pense qu'il y a une part qui est que la guérilla, il montre aussi qu'à long terme, la guérilla dans tous les pays d'Amérique du Sud, mais la Colombie peut-être encore plus, a été joué comme une expérience, et a été jusqu'à l'ivresse par tout le monde comme une expérience psychédélique, et que cette expérience-là, effectivement, elle laisse aussi un arrière-goût amer ou des traces chez ceux qui l'ont, ceux qui la jouent jusqu'au bout, et c'est quand même une énorme partie d'une jeunesse colombienne.
Monos d'Alejandro Landes dans les salles depuis mercredi. C'est l'heure du coup de cœur de Corinne Rondeau qui rigole parce qu'elle se demande comment elle va parler des éditions M dans un temps imparti qui est forcément court. Les éditions M.
Oui, mais comment avez-vous rêvé un jour d'avoir un film entre vos mains? Ben maintenant, un film articulé entre vos mains. Un film entre vos mains.
Oui.
Oui, eh bien voilà, c'est fait. Ce rêve, il existe grâce aux éditions M. C'est intéressant parce que édition M, c'est littérature cinéma, avec un tiré entre littérature et cinéma. Autrement dit, vous avez compris qu'il y a une ambition dans ces éditions qui consiste à faire d'un film un objet qui est un livre, qui crée une nouvelle temporalité, qui permet de refaire du présent à un souvenir, de créer, de creuser l'imaginaire avec des descriptions de sons, avec la capacité de fouiller dans les détails de ces photogrammes qui sont devenus l'espace de la page. C'est le premier livre vient de paraître, les éditions sont toutes jeunes. Le premier livre, le film, c'est s'intitule Vers cette neige, vers cette nuit, qui est un film de 2017 de Fabrice Lauterjung. Un livre remarquable, de qualité graphique, exceptionnelle, la reliure, le format, tout est absolument magistral, je trouve. Et donc, ce film ne l'est pas moins, je dirais, parce que je l'ai vu et à la fois je l'ai lu. Et on peut dire qu'on n'a pas du tout les mêmes sensations, on n'a pas du tout les mêmes émotions. Ce film, donc, et ce titre est tiré d'un vers d'Olga Bergholz. Ne retourne pas là-bas, vers cette neige, vers cette nuit, le regard de quelqu'un t'attend. Alors, le titre, il est absolument merveilleux autant que le vers, mais on peut voir que c'est un film au milieu des mots. Et c'est un peu ça aussi le film. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un homme dans sa chambre qu'on ne voit jamais, qui appelle une femme qu'on n'entend jamais sur un téléphone, qui ne répond jamais. Et donc, on a en fait une déambulation, car Fabrice Lauterjung fait beaucoup de films sur la déambulation. Istanbul, Berlin, notamment. Il a fait plusieurs films déjà. Et donc, on a à l'intérieur de ça donc tous les messages de cet homme qui appelle cette femme. Et donc, on a cette correspondance orpheline sur fond noir, au silence, entre des plans comme des vues lumière de Saint-Pétersbourg, noir et blanc, couleur, noir et blanc, jusqu'à une sorte de pulvérisation vers cette neige et ces écrans blancs de Russie. Et le souvenir d'une rencontre sans doute amoureuse. Mais ce qui est formidable, c'est en fait qu'il compose un film avec des creux. Je trouve que la phrase de Robert Browning, qui était le poète du monologue britannique et du drame, lui va parfaitement, le présent et l'instant dans lequel le futur se pulvérise dans le passé. Et les éditions... Non mais, ouais, je vous expliquerai la phrase plus tard, Lucille. Et les éditions M, vraiment, ne pouvaient pas mieux commencer cette...
leur vie.
Leur vie. Parce que je trouve que... quand par exemple, les films n'existent plus dans les festivals... Eh ben, ils peuvent apparaître dans les livres. C'est aussi une édition contre l'oubli. Et je trouve que, effectivement, je souhaite vraiment à ces éditions d'avoir de nombreux regards. Voilà, parce qu'effectivement, il ne faut jamais oublier que toujours un regard nous attend.
Nous voici à présent dans le journal de la dispute. Et ce soir, ma chère Lucille Como, Lucille, Charles, non. Marie, Judy...
Et les autres.
Et les autres.
La science est en train de changer. Et ceux qui la dirigent aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui étaient convaincus que la Terre était plate.
Veuillez quitter mon laboratoire.
Si ma science ne suffit pas, alors c'est que vous l'avez très mal comprise.
Il est l'heure, sans honte et sans déshonneur, de reconnaître notre défaite.
Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser les Allemands entrer dans Paris sans la moindre opposition.
Mais nous nous battons, vous le savez bien, et nous perdons.
En langage militaire, ça s'appelle une désertion.
Je ne vous ferme pas, de Gaulle !
Quoi que nous fassions, cette guerre sera mondiale. Décidons de continuer le combat ailleurs.
Oh, j'aimerais tellement rester ici.
Quelqu'un a vu Judy ? Il y a des centaines de gens qui sont venus vous entendre chanter.
Ma bouche est toute sèche, je ne tiendrai jamais.
Écoutez-moi.
Je vous ai dit
non. Ça va bien se passer. C'est à vous.
Somewhere.
Vous devriez apprendre à faire attention à vous. Vous m'entendez ?
Over the rainbow. Nous avons tous notre part de tourment. Et j'ai eu la mienne.
Charles de Gaulle, Marie Curie, Judy Garland, on peut s'amuser à chercher ce qui les relie, ces trois grandes figures. De fait, c'est assez opportuniste de ma part. Trois films portraits, communément appelés biopics, sortent ces jours-ci. Trois cas pour examiner ce genre, cette forme, on ne sait pas trop, qui courent les salles. Alors, de quoi s'agit-il ? De Gaulle, on est sur du cinéma français pédago-académique, soit Lambert Wilson, qui campe le général pendant les quelques mois qui précèdent le fameux appel du 18 juin à Londres, ses relations avec le gouvernement français, avec Churchill, mais aussi avec sa femme. Judy, on est sur de la grosse machine hollywoodienne, Renée Zellweger dans un rôle à Oscar type, pour retracer le destin évidemment tragique de Judy Garland, enfant star, exploitée, droguée par les studios pendant des années, qui se débat avec la dépression et continue bon an mal an à faire des concerts. Enfin, Radioactive, a priori moins déterminée dans le champ, puisque c'est un film américain, mais de la réalisatrice franco-iranienne Marjane Satrapi. Là, c'est Rosamund Pike qui interprète Marie Curie, au gré de ses inventions scientifiques et de ses amours, depuis sa rencontre avec Monsieur Curie jusqu'à sa mort. Trois films portraits, donc, qui prennent des partis différents dans le rapport qu'ils tissent entre la biographie de ces trois honorables sujets et leur représentation. De Gaulle prend le parti de la carotte. On prélève dans l'épaisseur de l'existence un morceau déterminant, les quelques mois de son engagement dans la résistance, qui donne évidemment des infos sur toute sa vie et permettent d'imaginer ce qui vient avant et de projeter ce qui vient après. Dans le cas de Judy, c'est le film des dernières semaines dans une logique tragiquement téléologique, l'agonie, hein, disons-le, oui, avec quelques flashbacks sur le tout début, sur le mode « tout était déjà là, tout était déjà écrit ». Radioactive tente quelque chose de plus singulier en insérant dans une chronologie classique des scènes qui appartiennent au futur de Marie Curie et qui représentent l'avenir de ses découvertes. Donc la bombe larguée sur Hiroshima, le rayon laser dans des cliniques des années 60 ou encore Tchernobyl. Ces partis pris fonctionnent plus ou moins, plutôt moins que plus, hein. Mais surtout j'ai l'impression qu'ils fonctionnent tous comme des stratégies d'évitement. Éviter la biographie, les jours qui succèdent, éviter finalement la vie dans son évidence nue en trouvant des artifices. Des artifices qui finissent toujours par entrer en contradiction avec le projet. Dans le cas de Gaulle, le film ne peut pas faire l'économie de flashbacks particulièrement gnangnans sur le couple Charles et Yvonne. Dans celui de Judy, qui est quand même le plus réussi des trois, il faut le dire, il y a quelque chose d'assez frustrant dans le trou entre l'enfance et la mort. Il y a un petit manque de complexité. Et dans Radioactive, ces passages hors de la vie de Marie Curie, censés figurer l'usage de ses découvertes, sont totalement incongrus. Alors, sont-ils là pour écorner l'apologie que le film fait par ailleurs sur le mode « c'est une femme formidable qui a inventé un moyen de guérir le cancer, mais elle a aussi inventé la bombe » ou l'inverse. Dans les deux cas, on reste perplexe. Bref, le film portrait ne semble jamais s'assumer tout à fait. Est-ce parce que le portrait au cinéma, en fait, ça marche pas? Bref, pourquoi les biopics sont-ils toujours ratés?
Vous faites le jingle, donc c'est vous qui commencez, Philippe Azoury. Bon, on fera votre biopic.
Bah, moi, c'est Judy Garland. C'est ce que vous avez raconté, c'est moi.
Judy Garland, c'est moi.
Il y a un super gap.
Je ne l'ai pas vu, le Judy.
C'est mieux.
Moi, j'ai vu que le De Gaulle.
Ah,
waouh. Faut
vraiment que j'ai du temps à perdre. C'est horrible. Non, pourquoi ça marche pas? Le De Gaulle, c'était intéressant là-dessus, parce que. C'est pour ça, parce que je suis très très vicieux, je suis allé voir ça. Parce que vous avez une figure, bon, De Gaulle. Tout le monde sait qui, enfin, tout le monde a son idée de, tout le monde peut dessiner son De Gaulle sur sa page blanche. Il ressemblera, voilà, à une idée très très fixée, déjà, archétypale de Gaulle. Pour le jouer, il faudrait précisément trouver un acteur qui arrive à être le moins De Gaulle possible. C'est le paradoxe du biopic. C'est-à-dire que plus on tente à ressembler, plus on se gamelle et que finalement, à pouvoir garder une distance de retrait, on inclut du jeu, on inclut une variation et ça peut donner quelque chose d'assez bien. Bon. Le malheur a voulu que ce soit Lambert Wilson qui a été choisi pour jouer De Gaulle. C'est pas un grand acteur, c'est moins qu'on puisse dire. Je ne parle même pas de ses positions depuis samedi. Ça, sautons ça, oublions ça. Comme acteur,
De Gaulle aurait probablement dit la même chose.
Peut-être.
C'est peut-être qu'il a. C'est peut-être trop imprégné.
C'est de gaullisé. Voilà. Enfin, peut-être. Voilà. En tout cas, c'est pas. Ça a jamais été un très très grand acteur, Lambert Wilson. Mais surtout, c'est un acteur qui est reconnu. C'est-à-dire que les gens voient Lambert Wilson, qu'ils le voient dans la rue, au café ou dans un cinéma, ouais. Ils reconnaissent Lambert Wilson. C'est-à-dire que vous avez déjà tout le monde reconnaît De Gaulle, tout le monde reconnaît Lambert Wilson. Et au lieu de s'additionner, ça se dissout dans un espèce d'effectivement
Mais si,
Corinne, je vous assure, ça n'est pas jouable. Donc c'est quand même un cocktail très très compliqué, ces histoires de biopics. C'est à la dose près, et là on a surdosé des deux côtés.
Je vous coupe un tout petit instant, parce qu'on me parle en permanence, donc je l'ai regardé cette semaine, du meilleur biopic de tous les temps, qui serait le Van Gogh de Piala. En l'occurrence, c'est Dutronc qui joue Van Gogh, donc c'est Dutronc. Oui. Donc il y a aussi cette espèce de mise en concurrence d'une figure...
de dire un truc quand même, parce que vous le regardiez au bureau
sans connaître du tronc.
Et vous étiez déjà pas fasciné par le film sans vous rendre compte que c'était Jacques Dutronc.
Une fois que j'ai su que c'était Dutronc, en effet, je voyais à la fois Dutronc. Bah si, parce que justement, ça crée quelque chose de très intéressant dans le film et de très cinématographique. Donc c'est pas nécessairement. Mais bien sûr, que c'est Dutronc qui joue Van Gogh, ça crée quelque chose de très intéressant.
Van Gogh, ça vous intéresse?
Non, ça m'intéressait déjà beaucoup avant.
Bon, je vais pas y arriver. Non, justement, je trouve ça intéressant d'un point de vue cinématographique, le conflit entre deux figures. C'est-à-dire que faire jouer, en effet, une figure tellement historiquement déterminée, tellement représentée dans l'imaginaire collectif par quelqu'un qu'on connaît pas exprès, peut être aussi très artificiel.
Non, mais peut-être, précisément, peut-être parce que si le travail de Piala, à ce moment-là, dans son naturalisme exacerbé, c'est de filmer Dutronc, tentant de réapprendre des gestes, et que ça devient aussi un documentaire sur Dutronc passionnant, qu'il arrive à les juxtaposer. Mais sur une autre, un biopic qui s'ignore, qui serait Last Days de Gus Van Sant, qui est l'anti-biopic de Kurt Cobain, qui est joué par, ça s'appelait Michael Pitt. Moi, par instant, c'est un film que j'aime beaucoup, j'ai dû voir 6 ou 7 fois, et par instant, il me semble, lorsque je pense à Kurt Cobain, quoi que ce soit, ce sont des moments de ce film qui viennent. C'est-à-dire que je suis persuadé d'avoir vu des moments arrachés à la vie de Kurt Cobain, alors que c'est une fiction qui ne dit même pas le nom de Kurt Cobain, qui arrive à trouver l'exacte mesure. Sur Piala, c'est un cas particulier, mais comme tout ce que fait Piala, ça déborde, et c'est à partir de sa fascination simplement, non pas de la représentation d'une image de Van Gogh, mais du travail du peintre au quotidien. Quoi.
Oui, mais après, il y a différents cas de figure. Sur les biopics, je regardais seulement ceux qui ont pour titre le nom de son sujet, enfin, ou le prénom, comme c'est pour Judy. Il y a ceux qui jouent, justement, un visage peu connu, c'est Gainsbourg, une vie héroïque, qui va chercher l'Eric Elmosnino, c'est Gandhi, parce qu'à l'époque, Ben Kingsley, personne ne le connaît, c'est Amadeus, Forman, il y a ça, et de l'autre côté, il y a tous ceux qui choisissent, au contraire, les grands noms, quand c'est Ed Wood joué par Johnny Depp, quand c'est Harvey Milk joué par Sean Penn, etc. Bon, vous voyez, ou Lincoln par votre ami, j'ai oublié le nom.
Daniel Day-Lewis.
Merci, Daniel Day-Lewis. Et ça, il me semble que ça produit des effets quand même extrêmement différents.
Oui. Donc c'est pas une règle. Enfin, je veux dire, la question du choix de l'acteur ne détermine pas tant que ça la qualité.
Mais c'est une façon d'approcher le biopic. Oui. Et c'est dans la réflexion, en tout cas, alors... J'imagine d'un système de production aussi qui fait que grand nom plus grand nom égale sans doute recette assurée, ce qui n'est pas le cas. Ouais. On verra les entrées en salle de Gaulle. Je suis pas sûr que ça bouleverse absolument la foule. Et puis je me suis rendu compte, je vais donner la parole à Corinne Rondeau, que parmi mes cinéastes préférés, il y a quand même Scorsese. Il a fait quand même beaucoup de biopics. Ah,
Jésus-Christ.
En date, il y a Jésus-Christ, il y a Loup de Wall Street, il y a Raging Bull, Aviator. Enfin, c'est quand même quelque chose qui l'intéresse, mais alors qu'il
creuse. C'est très américain comme genre, le biopic.
Oui, c'est très américain, mais quand c'est Scorsese, c'est quand même très scorsésien. Oui. C'est-à-dire, c'est toujours la même figure qu'il creuse, celle du Christ, dans Boxing Bertha, un de ses premiers films où il y a cette scène de crucifixion sur le wagon de chemin de fer de la Grande Dépression. Mais qu'est-ce qu'on cherche quand on fait un biopic? C'est à parler de qui? Tout ça m'intéresse quand c'est peut-être de soi-même. Corinne Rondeau.
Oui, enfin, bon, moi, de toute façon, les biopics, ça m'ennuie un peu, sauf quand il y a un réalisateur derrière, c'est-à-dire le Pasolini d'Abel Ferrara, que moi, j'avais trouvé d'une grande force. Enfin,
un très beau film.
Et pour moi, je voyais pétrole, je voyais des pages de pétrole dans le Pasolini d'Abel Ferrara.
Et pas les moins salés.
Donc, le Saint-Laurent de Bonello, je veux dire...
Mais vous parlez que de biopics de créateurs, ce qui est intéressant. Hein, mais...
Non, mais je veux dire, où on est réalisateur.
De figure de créateur.
Figure de créateur, vous voulez dire?
Bah, Pasolini, Saint-Laurent.
Saint-Laurent, c'est pas De Gaulle. Oui, c'est des gens qui eux-mêmes ont une activité.
Oui, bon, Aimé Liès, il a fait le premier biopic, Cléopâtre, en 1899. Bon, ben voilà, effectivement, les gens ne vont voir que des noms propres. Ils vont voir que des noms propres. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement plutôt des réalisateurs qui vont vers des grandes figures, qui sont pas De Gaulle, mais Alexander Nevsky, avec Eisenstein, par exemple. Mais
dans le terrible, oui.
Non, mais je trouve pas, enfin.
Bah, c'est un film historique.
J'ai pensé moi, je n'ai vu aucun des trois, parce que d'abord, je n'aime pas le biopic, puis je n'ai pas eu le temps. Et puis quand j'ai vu l'affiche de Marie Curie, Radioactif, avec Elle tient une fiole, parce qu'elle est gauchère, on n'a pas oublié qu'elle était gauchère, et dans laquelle il y a une bombe atomique, enfin un champignon atomique, on se dit, mais la crétinerie du film, elle est déjà sur l'affiche. Donc là, bon, je peux me tromper en général.
Les affiches sont conçues par d'autres personnes que ceux qui...
Moi, ce qui m'interroge davantage, c'est pas du tout la question de Lucille, c'est pourquoi il y a tant de biopics. Pourquoi il y a tant de biopics? C'est pas nouveau, mais pourquoi il y a tant de biopics?
Parce que ça rassure les gens de voir des choses qu'ils connaissent déjà.
Non, mais je veux dire,
un montage de production, c'est facile.
Mais ça rassure.
C'est plus rapide qu'une fiction.
Pourquoi aller voir quelque chose qu'on connaît pas?
C'est sûr, ça? C'est que de la prod.
Mais non, mais c'est ça. C'est pourquoi il y a des suites.
C'est pas la crise du scénario, c'est pas qu'il n'y a plus de personnages.
Ça se montre
rapidement. Les acteurs qui veulent devenir un autre.
Ça rassure le public.
Vous croyez que ça allait. Bah, je veux dire, alors. Bah, la personnalisation,
c'est un défi d'acteur, ça rassure le public. Et
ça les rassure.
Oui. Oui, c'est de l'ordre du patrimoine.
D'aller vers ce...
Non, c'est pas du patrimoine.
Après, la vraie question, c'est pourquoi un cinéaste a envie, ou un réalisateur même de studio, pourquoi, ou même un studio a envie de raconter la vie de quelqu'un.
Mais qu'est-ce qu'on a...
Est-ce que c'est pour raconter quelque chose que tout le monde sait, ou c'est pour raconter ce qu'on ne sait pas?
On est quand même dans une époque de transparence à outrance. On fait des biopics de merde, ou quasiment tout le temps quand ça s'appelle un biopic. Et à un moment donné, on se pose la question des réalisateurs quand ils sont en train de créer un truc, parce que quand ça se crée, il y a quand même le temps d'une opacité par rapport à cette transparence. Si les gens veulent voir des choses, qu'on leur explique encore une fois, parce qu'il y a vraiment entre ça et le film de divertissement, il y a autre chose. Je crois pas tant que ça rassure les gens. Je pense que les gens s'ennuient, mais ils ignorent qu'ils s'ennuient. C'est pour ça qu'ils vont voir des biopics.
Les modes de production et les gens, c'est deux choses différentes, même si elles sont très, très, très liées.
Lucille, vous avez 10 secondes.
Non, mais ceci dit, sur les trois films que j'ai cités, le plus réussi est clairement le plus classique dans, justement, ce qu'il envisage. Au moins, il y a une forme d'honnêteté.
Américaine.
Dans cette espèce de téléologie du destin complètement assumée. Et ça fonctionne parce que c'est la grosse machine.
Oui, mais parce que ça croit au destin. Ça croit, c'est très américain. On croit.
Mais allons-y, enfin.
Allons-y, mais sans moi, car il est 19h57 et que je dois conclure cette séquence. Le jeu de la dispute. Oui, c'est l'heure. Lola Schindler nous a rejoint. Pour nous rappeler la question qu'elle posait hier et nous donner enfin sa réponse. Lola.
Qui signe la scénographie de Girls and Boys, visible en ce moment au Centre Dramatique National de Reims? Et la réponse est Pierre Nouvelle.
Ce soir, des invitations à gagner pour le spectacle Marry Me in Bassiani, de la Horde. Des places à gagner pour vendredi 13 mars, 20h30, à la Maison de la Danse à Lyon. C'est le festival Sans Dessus Dessous. Quelle est la question, Lola?
En quelle année a été créé le festival Sans Dessus Dessous?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Lola Schindler. Prise de son ce soir d'Alia. Réalisation Alexandre Fougeron. On se retrouve lundi à 19h pour une dispute consacrée au spectacle avec Caroline Châtelet, Marie Sorbier et Lucille Como. Nous parlerons de Les Innocents, Moi et l'Inconnu au bord de la route départementale. Peter Handke, mise en scène par Alain Françon. Room with a View, le collectif La Horde, musique Ron, c'est au Théâtre du Châtelet. Il y aura un coup de cœur de Caroline Châtelet pour Ersatz de Julien Mélano et le journal de la dispute, ouvert par Lucille Como, cette fois à la page judiciaire.